Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à La Croche-Oreille, cette émission en art audio de CKRL. C'est Jean-Pierre Gay qui est avec vous ce soir, avec Myriam Lambert. Bonsoir, Myriam.
Bonsoir, Jean-Pierre.
Ce soir, Myriam, on a la chance d'avoir avec nous deux participantes, trois si on calcule, si on te calcule aussi, d'un projet, d'un très beau projet innovateur à Québec, un projet qui visait à animer de façon sonore un espace de patinage qui est la Pointe-aux-Lièvres. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on accueille Mélanie Bédard et Fanny Giguère avec nous qui ont participé à ce projet-là. Un projet qui était voué à un beau destin, mais qui malheureusement a fini prématurément. On aura l'occasion d'ailleurs la semaine prochaine de revenir là-dessus, sur ce projet-là, sur comment on aurait peut-être pu faire autrement ou comment il serait possible dorénavant d'avoir un type de projet comme celui-là. Mais on a avec nous donc celle qui, Mélanie, qui a été entre autres très active dans ce projet-là, Mélanie Bédard. C'est venu comment cette idée de changer le son à la Pointe-aux-Lièvres?
C'est en patinant. En fait, Ariane et moi étions des utilisatrices de cette patinoire.
Ariane Plante,
mm-hmm. Oui. Donc, on patinait souvent ensemble l'hiver dernier à la Pointe-aux-Lièvres. Et à un moment donné, Ariane m'a accrochée et elle m'a dit, tu sais, en patinant, je pensais à ça, puis ce serait le fun de faire un projet d'art sonore voué à la patinoire. Parce que cette patinoire-là, particulièrement... c'est une promenade, c'est pas juste on fait pas juste tourner mm-hmm. en rond, c'est sous forme de promenade.
Un circuit.
Et donc cette promenade-là est balisée par des speakers, mm-hmm. donc qui sont déjà sur place. Puis c'est là qu'on a développé le projet en fait. Donc c'est une idée originale de Ariane qu'on a développée ensemble. On a écrit les textes, on a développé le projet, on a pensé à inviter quatre autres artistes à mm-hmm. participer avec nous, donc à créer une œuvre sonore.
Qui sont
Pierre-Olivier Fréchette-Martin, Alexis Bellavance, Fanny Giguère et Myriam Lambert. Donc, c'est ça, on les a invités à participer avec nous. On a fait une demande de sub au programme Première Ovation en diffusion indépendante dans la section Arts médiatiques. Et c'est ça, on a tenu la bourse qui nous a permis de créer les pièces et de les diffuser sur le site cet hiver.
Donc, en fait, là, nous sommes en train de parler de Klondike. Klondike qui était justement présenté dans le cadre, entre autres, du mot multi, dans le cadre aussi de Espace Blanc à Rimouski. Donc, en fait, là, tu parles des artistes qui ont... C'est drôle parce que je fais partie du projet, mais je ne sais pas comment vous avez fait pour sélectionner... Pourquoi j'ai été sélectionnée ou pourquoi Fanny a été sélectionnée ou Alexis, Pierre-Olivier?
Première Ovation, c'est un programme pour la relève. Donc, il y a un gros ratio, je pense qu'il y a un pourcentage, 90% des artistes qui participent qui doivent être de la relève et qui doivent être de la région de Québec. Donc, il y a Alexis Bellavance qui est un artiste professionnel en son qui vient de Montréal, qui a été happé. Mm-hmm. Et appelé à participer au projet, mais pour le reste, ça prenait vraiment 5 artistes de la région de Québec et de la relève en art sonore. Donc, en majorité, c'était des gens qui travaillaient surtout la vidéo, l'installation, donc qui touchaient au son, mais que c'était pas leur première voix là, d'expression. Mm-hmm. Puis moi et Ariane aussi, c'était ça. Ariane est plus dans le monde du texte, elle commençait mm-hmm. à toucher au son. Dans l'écriture, et moi, je suis en installation vidéo. Mais c'était l'idée de produire une première bande sonore, vraiment, juste une bande sonore, finalement.
Puis comment vous avez fait pour faire en sorte que les... Parce qu'il y a quand même 6 œuvres qui étaient présentées, une derrière l'autre. Comment vous avez fait pour que ça... qu'il y ait une espèce de cohérence entre ces œuvres-là?
Ce qu'on a dit aux artistes, en fait, c'est de s'inspirer de la saison hivernale. Mm-hmm. On les a portés. Vraiment, là, sur notre dos. On les a portés jusqu'au site cet été. Ça a été assez difficile, cette journée-là. Mais on les a... on leur a présenté le site. On leur a expliqué, c'est ça, qu'on voulait vraiment s'inspirer du site sur le bord de la rivière, de ce lieu-là, spécifiquement, de la saison hivernale, de ce que ça inspire à chacun, la saison hivernale, et bien sûr, du sport, qui est le patin à glace. Donc, quelque chose qui est nordique, puis qui est un peu ancré en chacun de soi. Mm-hmm. Après, on n'a pas donné vraiment de direction artistique, mais on a été surprise et contente de constater qu'on avait tout un peu le même... on a tout utilisé des sons qui viennent se rapprocher dans le crépitement, dans...
le vent.
Le vent, oui, tout le monde a utilisé un peu de vent. Le crépitement aussi, on est tous allés chercher une espèce de crépitement de fond. Donc, ça faisait un lien entre les bandes. Par contre, ce qui était le fun, c'est que ces crépitements-là, ils ne viennent pas du tout des mêmes sources. Il y en a qui viennent du patin, oui, qui a été enregistré sur une patinoire, mais il y en a d'autres qui viennent d'une aiguille sur un tourne-disque qui frotte. Mm-hmm. Donc, toutes sortes de frottements comme ça pour rappeler l'hiver.
Puis peut-être aussi pour répondre à ta question, Jean-Pierre, il y a aussi la résidence qu'on a eue à Recto Verso. Qui a fait en sorte qu'on avait la possibilité d'entendre les sons des autres. Donc, puis, bon, on a eu un échange pendant cette résidence-là, donc ça a quand même bien apporté au collectif.
Il nous reste quelques secondes avant de passer à ton projet, au projet de Fanny. Malheureusement, ce projet-là a eu une fin précipitée, prématurée. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement?
Donc, pour ce qui est du côté, il y a eu le côté production, la première phase. Le côté diffusion, on avait proposé une horaire de diffusion à la ville, au site, qui était de l'ordre de pendant un mois à tous les jours, donc 14 heures la fin de semaine, puis 19 heures la semaine. Et après quelques jours de cet horaire de diffusion, il semblerait-il qu'on aurait eu beaucoup de plaintes des usagers qui vont quotidiennement patiner. Des plaintes ou des questionnements, en fait. Et là, la ville nous a demandé de changer l'horaire. Parce que c'est 6 œuvres de 15 minutes. Donc, ça fait un total de 90 minutes, oui. Puis, j'imagine que ce soit la personne qui allait patiner tous les soirs à 19 heures puis qui tombait tous les soirs là-dessus puis qui n'aimait pas ça, ben bon. C'est un peu de cet ordre-là.
Bien, on va avoir une idée de ce que ça peut donner, ce travail-là. On va commencer par écouter l'œuvre, un extrait de l'œuvre de Fanny Giguère. Alors, on y va.
Moi, j'ai pris un KitKat. Oh, il y a Arthur, le petit bonhomme.
Passer la main. Ouais, mais je pense que ça peut prendre pas de ça.
Thank you.
Alors, c'était l'œuvre de Fanny Giguère. En fait, cette œuvre, on a l'impression d'avoir passé de l'enfance à la vieillesse en passant par tous les âges. Peux-tu nous expliquer un petit peu, Fanny, comment tu as travaillé cette œuvre-là?
Ben moi, en fait, j'avais envie de transposer un peu ma démarche que je fais en vidéo en son. Donc, en vidéo, je travaille beaucoup à propos des cycles, les boucles, ce qui revient. Puis là, j'ai eu l'idée de faire le parallèle avec les saisons. J'ai pris l'inspiration de la saison hivernale, je l'ai un peu élargie. Puis je me suis dit que les saisons, les quatre saisons de l'année qui revenaient en boucle, en cycle, pouvaient représenter les saisons de la vie, si on veut. Donc, j'ai transposé, par exemple, le printemps, ce serait la naissance. L'été, l'enfance, l'automne, l'âge adulte et l'hiver, la vieillesse. Puis j'ai essayé de faire des jeux comme ça avec des sons ambiants, des sons plutôt musicaux qui pourraient appartenir à l'univers de chacun des saisons de la vie, comme ça, puis des sons du corps. Puis un autre directive, si on veut, que je m'étais donnée, c'est que quand je m'attardais au son l'hiver, ce que j'aimais, c'est que souvent, on dirait que le son voyage moins. C'est très près de toi, ce que t'entends beaucoup ton habit de neige, t'entends tes pas, t'entends ta respiration. Donc, j'avais envie d'un peu jouer avec cet effet-là dans ma pièce. C'est-à-dire que les sons des humains, là, de l'humain qui correspond aux différentes saisons de la vie, sont de très, très près, pris avec des micro-contacts, puis la respiration, les espèces de petits bruits d'enfants, de bébés, versus l'univers qui serait de plus ambiant, plus loin. Donc, de jouer un peu avec l'effet sonore d'hiver, mais à travers les quatre saisons.
C'est des sons que tu es allé chercher, que tu as enregistrés toi-même ou tu es allé les chercher sur Internet ou ailleurs?
Que j'ai enregistré moi-même, puis... J'ai un aspect un petit peu documentaire, si on veut, même dans la vidéo. Tu sais, souvent, ça va être des choses prises sur le vif, pas stagées du tout, rien de calculé à l'avance. Puis je m'inspire donc de ces petits bribes de vie-là. Puis j'avais envie, encore une fois, de faire la même chose en son aussi. Donc, ce sont vraiment des sons du quotidien, l'enfance, la famille. C'est aussi du monde très près de moi. Fait que c'est sûr qu'il y a un côté affectif à ça pour moi, là.
Vas-y. Tu disais tantôt avant l'émission que il y a quelque chose qui fait de l'ordre de l'ONF dans ton travail. Comment tu je pense que c'était ça s'applique assez bien. Il y a quelque chose de documentaire un peu dans ce que tu fais.
Oui, c'est ça. C'est une amie qui m'a dit ça dernièrement qu'elle avait eu un petit ressentiment d'ONF en écoutant ma pièce. Moi, j'ai aimé ça, comme je le prends comme un compliment, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre du documentaire dans ce que je fais, puis on dirait qu'en vidéo, je le voyais moins, parce que veux pas, il y a toujours un genre de dispositif, des effets, de l'étalonnage de couleurs, de l'interactivité. Mais là, en son, de transposer ma démarche en son, là, j'étais vraiment dans un échantillonnage documentaire, sonore, puis je trouvais que ça s'inscrit dans une époque, tu sais. À un moment donné, ils passent l'Halloween, les enfants, il y a l'expo, il y a quelque chose de très documentaire par rapport à ma vie de tous les jours, si on veut, qui est quand même une vie d'aujourd'hui en 2011, comment une jeune famille évolue dans la vie. Fait qu'il y a quelque chose de documentaire là-dedans, puis je trouvais que c'était bien comme... comme parallèle. Mm-hmm.
Est-ce que ça répond un peu à tes autres œuvres que t'as faites en vidéo, exemple?
Ben oui, un peu, parce qu'il y a toujours, c'est ça, le côté un peu ludique, le rapport à l'enfance. Puis comme je disais, ben je prends toujours des images qui sont très près de ce que je vis puis qui vont être captées sur le vif. Fait que peut-être que c'est... On dirait que ça sort plus en son, je trouve, le côté documentaire. Mais oui, c'est le même univers que je veux utiliser. Très coloré aussi, tu sais, mes sons sont quand même assez... coloré ou teinté de l'esprit que je voulais donner par rapport à ces différentes saisons de la vie-là. Là, je les ai colorés par peut-être le côté un peu musical, là, la boîte à musique quand ils sont bébé, le piano quand ils sont à l'enfance, les enfants qui apprennent à jouer du piano, une espèce de petit beat lounge techno quand t'es à l'âge adulte, puis mes grands-parents qui fredonnent à la vieillesse. Donc, c'est comme j'ai coloré mes pièces comme ça. Puis autant dans la vidéo, je travaille beaucoup aussi avec les couleurs pour teinter mes images. Donc, je pourrais faire le parallèle de cette façon-là aussi.
Tu parles beaucoup d'images, puis parce qu'on en voit des images dans ton œuvre, c'est probablement celle où on voit plus d'images parce qu'il y a beaucoup de types de situations qui touchent les gens. Fait qu'on on a l'impression qui touche le corps, qui touche le corps. Ouais. On a l'impression de voir tes grands-parents. Tu parlais des grands-parents, on a l'impression de les voir. Mais évidemment, quand on entend des choses de l'enfance, on a l'impression de voir un bébé. Donc c'est très imagé.
Ouais, c'est narratif. Hein,
d'où l'idée. D'où l'idée de l'ONF. Moi, je pense que c'est vraiment... dans les six, c'est peut-être la celle qui est le plus documentaire, comme tu dis, la plus imagée. Parce qu'il y a, quelque chose de on la voit, l'évolution de la naissance pas à la mort, mais à la vieillesse.
Ouais. Puis c'est drôle parce qu'autant qu'en vidéo, je me situe pas dans le narratif du tout, tu sais. Je suis plus dans une ambiance, une vidéo d'art où il n'y a pas vraiment de début, pas vraiment de fin. Puis c'est une... Mais sinon... puis en transposant ça en son, finalement, je me retrouve dans quelque chose de super narratif, pas d'image.
Donc, on va passer à la pièce de Mélanie Bédard.
Oui, bien, en fait, on va s'en aller à la pause publicitaire sur ça, parce qu'évidemment, ici, à CKRL, la publicité est importante pour nous faire vivre. Donc, on va se rendre à la pause publicitaire avec la pièce de Mélanie. Est-ce qu'il y a des titres à vos pièces en passant?
Oui.
Le titre de la tienne, Fanny?
Présence. Avec un S.
Avec un S.
Oui.
Et Mélanie?
C'est arythmie, lentement le cœur, de plus en plus la tête.
Oh boy, un long titre. On est proche de l'ONF aussi. Alors, on s'en va à la pause publicitaire avec la pièce de Mélanie Bédard. Thank you. De retour à la croche-oreille, c'est toujours Jean-Pierre Gay et Myriam Lambert avec vous. Toujours dans cette émission où il est question de Klondike, un beau projet d'aménagement sonore sur la Pointe-aux-Lièvres, un des sites de patinage ici à Québec. Mélanie, avant d'aller en pause publicitaire, on a écouté ta pièce à toi. On ne répétera pas le titre, on va laisser les auditeurs revenir à leur archive. Alors, Mélanie... Un peu comme on a demandé à Fanny, comment c'est venu ce projet de cette pièce-là?
Comment c'est venu? Un peu comme Fanny, en fait, puis comme la plupart des artistes du collectif. Ma démarche, en premier, c'est en installation vidéo et en manœuvre. Donc, c'était ma première bande sonore sans image, parce qu'habituellement, je mets du son sur des images. Et là, j'ai eu un petit travail d'exercice, finalement, à faire. Je me promenais les yeux fermés, puis je me disais, bon, tu vois rien, là. T'as juste du son, tu sais, t'as pas... C'est ça. Fallait pas que je me rattache à l'image, fallait que je me rattache au son, cette fois-là. Et pour ce faire, j'ai aussi utilisé des images que je me suis gardées en tête. En fait, je me suis monté une petite histoire dans ma tête. Et je l'ai représenté avec les sons par la suite. Et la petite histoire, c'est tout simplement celle que j'ai vécue en créant le projet Klondike. Donc, mm-hmm. C'est celle de s'habiller, sortir de chez soi, marcher jusqu'à la patinoire en écoutant dans ses écouteurs des chants d'oiseaux. Et arriver sur la patinoire, entendre une musique, patiner et retourner à la maison par la suite... en entendant différentes bandes sonores que l'on capte sur la rue à la sortie de la pharmacie, du restaurant ou dans les voitures à la lumière rouge. Donc, c'était un peu cette petite histoire-là. Quelqu'un qui marche dans la neige mm-hmm. jusqu'à la patinoire, qui patine, entend de la musique et voilà.
C'est quand même étonnant, puis dans le fond, ça ne l'est pas non plus en même temps. Là, toi et Fanny, vous êtes toutes les deux issues du milieu de la vidéo, puis cette espèce de récit... que vous avez transposé en récit, mais sonore, là, mais qui est évocateur aussi. On n'a peut-être pas autant les mêmes images que celles d'Anthony, mais il y a donc cette idée de récit. J'imagine que dans le projet, il y en a peut-être d'autres qui ont pas aussi fouillé cette idée, mais toi, venant de la vidéo, au bout du compte, t'as raconté une histoire.
Ben, c'était une façon pour moi ouais, de me rattacher à quelque chose. Là. Comme je ne me rattachais pas aux images, mm-hmm. J'étais allée chercher mes sons, les sons de pas, les sons d'oiseaux, de cette façon-là, finalement.
Mais c'est drôle parce qu'il y a aussi... il y a Alexis Bellavance qui a travaillé un peu dans cette optique-là, sans dire qu'il voulait être narratif. Mm-hmm. Mais bon, c'est quand...
C'est dans l'idée de la promenade aussi.
C'est ça, mm-hmm. Exact. Ouais. Il y a P.O. puis Ariane qui ont moins travaillé comme mm-hmm. ça. P.O. étant Pierre-Olivier Fréchette-Martin. Et Ariane Plante, ils ont moins travaillé de cette manière-là. Est-ce que je me trompe ou...
Ils étaient plus expérimentaux. Eux, ils ont plus travaillé lors de la résidence à Recto Verso. Vraiment, sur le... Ariane, par exemple, a fait des expériences de micro qu'elle faisait geler, dégeler dans l'eau avec des instruments de musique. P.O. lui a travaillé avec un vieux tourne-disque, puis s'est amusé à faire mm-hmm. des cycles avec la vieille aiguille. Moi, ma référence, en vidéo, puis dans mon travail, je travaille toujours sur la promenade. J'ai fait beaucoup de vidéos en promenade. Donc, Alexis aussi, je pense que c'est quelque chose qui s'approprie beaucoup mmh. dans sa démarche artistique, ouais. L'idée de la flânerie, de la contemplation. Donc, chacun à notre façon, on a travaillé sur l'idée de la flânerie, oui.
Toi aussi, c'est des sons que tu as enregistrés toi-même?
Moi, j'ai différentes banques. Il y a des sons que j'ai, fait moi-même lors de différentes promenades. Par contre, à la fin, par exemple, quand mon personnage fictif retourne chez lui. Il y a vraiment une cacophonie d'oiseaux puis des bugs radiophoniques. Et à ce moment-là, il y a un fond de son d'oiseaux que j'avais déjà, mais je suis allée en chercher des gratuits sur Internet. Puis là, j'ai vraiment utilisé une banque de sons. J'ai vraiment trouvé ça drôle, là, parce que j'ai aussi utilisé un vieux vinyle aussi quand il patine... Quand il est sur la patinoire, en fait, j'avais envie d'une chanson qui donne envie de faire les arabesques. Tu sais, quelque chose de vraiment... Fait que je suis allée chercher un vieux vinyle au chalet d'un orchestre des années 40. Mm-hmm. Puis c'est une chanson que j'ai toute déconstruite, finalement, dans le montage. Donc, il y a plusieurs sources. Il y a les sources vraiment de field recording que j'ai fait moi-même. Il y a des vieux vinyles avec le vieux son du radio, puis il y a des sons gratuits sur Internet. Donc, il y a différentes sources.
Puis toi, comment tu le vois, le rapprochement avec ta démarche artistique par rapport à... Parce que tu fais de la vidéo, tu fais de la manœuvre également. Est-ce que tu vois un lien direct? Parce qu'en fait, c'était ta première œuvre sonore. C'est bien ça?
Ben oui, je fais toujours des bandes sonores, mais pour accompagner mes vidéos. Donc là, sans images, oui, c'était la première fois que je faisais ça.
Comment t'as
trouvé? Le rapprochement, c'est vraiment dans la thématique, c'est ça. Je travaille la flânerie, la contemplation, puis c'est un peu comme ça que j'ai monté ma pièce.
Mm-hmm. Mm-hmm. Puis comme première œuvre sonore, est-ce que tu as eu de la difficulté à travailler... Sans images, ou ça a sûrement pas été de soi? Ça a-tu été...
C'est ça, au départ, c'était de faire des petits... Je me rappelle, c'était l'été, premièrement, quand on a commencé à travailler sur le projet, puis il fallait faire des sons d'hiver, hein? Fait que c'était comme... point de vue enregistrement, j'ai utilisé des choses que j'avais déjà enregistrées l'hiver, tu sais, dans différents projets. Mais je me rappelle, j'étais assise sur ma terrasse, puis je fermais les yeux, puis je me disais, bon, qu'est-ce que j'entends? Puis, tu sais, je me créais des exercices, finalement. est-ce que le son est proche et loin? J'essayais de qualifier, OK, tu sais. Donc, c'est ça, je me suis amusée comme ça à faire différents exercices, là. Comme quand on zigonne avec notre caméra, puis qu'on essaye des effets, tu sais.
Donc, d'essayer de voir le son d'une autre façon, d'entendre le son d'une autre façon.
Oui, oui.
OK. Donc, c'était de cette façon.
Ben, merci, Mélanie. On va écouter maintenant ta pièce à toi, Myriam.
Oui.
Est-ce qu'elle a un titre, cette pièce-là?
C'est « Réduction du territoire
mm-hmm. ».
Donc,
on y va avec ça.
Oui. «
Réduction du territoire ». Thank you.
dans les airs, puisse la force, l'envie et la vie, la beauté, l'amour. Armstrong, Bass, Griscard, McKinney, McKinney, Sophie,
silence et cause!
Voilà maintenant Caffrey. Une passe, il revient Curry. Curry qui fait d'abord la main au centre. Force du Hustle Wilding et le Marshall Curry. Avec Armstrong, il fait la passe sur la banque. Il peut y être. Un Marshall, Marshall Lange. Et puis il revient. Il est devant les buts. Il lance, c'est le Marshall. Goyette lance. Et contre, il peut y être. Et ça fait 4-1. Quelqu'un disait il n'y a pas longtemps, pour les temps de la Ligue de Goyette, marque un but tellement à la fin de la troisième Ligue de la Ligue 2 devant les buts, passe à McHale, McHale lance, long drop, pas sur la Harvey, la passe de Harvey, c'est la
Alors, Myriam, c'était réduction du territoire. C'est drôle comment il y a une espèce de cohérence puis de continuité dans nos émissions depuis le début.
Mm-hmm.
Le territoire, c'est toujours toi qui apportais cette idée-là. Puis comme par hasard, ta pièce s'appelle réduction du territoire. Pourquoi?
Ben, en fait, moi, dans mon travail, je travaille toujours avec le lieu, la mémoire mm-hmm. et l'identité. Donc, quand je suis arrivée, c'est Mélanie puis Ariane... qui m'ont demandé de participer à ce projet-là. Et j'ai dit, ben ça entre directement dans mon travail, dans ma démarche, puisque justement, je travaille avec le territoire. Mais là, ce lieu-là, j'avais été aux archives de la Ville de Québec pendant un temps, puis on m'avait parlé de ce lieu-là comme étant un lieu très contaminé.
Mm-hmm.
Donc, j'ai fouillé un petit peu plus... C'était quoi l'histoire de ce territoire-là? Je parle de la Pointe-aux-Lièvres.
Mm-hmm.
Il y a eu un vieux incinérateur un bon moment qui était là. Il y a eu aussi beaucoup de manufactures dans ce coin-là. Par la suite, ils ont vraiment essayé de décontaminer le terrain. Bon, il y avait vraiment tout un historique de pollution assez incroyable. Mm-hmm. Donc, c'est ça, en fait. Là, je me suis dit, OK, je vais travailler avec la mémoire de ce lieu-là. Puis, avec toutes l'espèce de finalement, comment travailler... Oui, la contamination.
La contamination du territoire.
Ouais. Mais qu'est-ce qui est devenu maintenant également? Parce que là, il faut le faire quand même, parce que ce lieu qui est magnifique, qui est vraiment impressionnant, que ce soit en été autant qu'en hiver... est très contaminé encore aujourd'hui. Donc, c'est certain qu'ils peuvent pas... Bon, je ne veux pas rentrer dans le...
Mais la réduction du territoire?
Oui, bien, la réduction du territoire, c'est juste que j'ai voulu travailler c'est comme si on réduisait notre... Pardon. C'est comme si on réduisait notre propre territoire Ben, c'est vraiment par rapport à la pollution, parce que okay. la pollution réduit notre territoire.
C'est la perte de valeur du territoire.
Oui, exactement. Okay. Donc voilà, en fait, j'ai voulu travailler avec ça. Donc, c'est pas narratif comme œuvre. Moi aussi, c'est ma première œuvre sonore, seulement que sonore. Là, je fais toujours des installations à l'habitude avec du son, mais sauf que là, c'est la première fois aussi. Et moi, justement, j'ai trouvé ça difficile. Il faut dire aussi que j'ai fait l'œuvre au chaud à 34 degrés.
Oui, c'est ça hein, qui était drôle.
Donc ça, c'était pas très évident.
C'est réduction comme dans le sens réduire une sauce.
Ouais. Non!
Comme faire fondre la glace.
Faire fondre la glace.
Donc en fait, c'est ça, j'ai utilisé des sons que j'ai enregistrés avant de partir, enregistrer, mais aussi des sons que j'avais déjà, d'une banque de sons que j'avais... que j'avais sélectionnées aux archives nationales, aux archives de la Ville de Québec, aux archives de Montréal. Donc, par la suite, j'ai vraiment travaillé avec, avec cette banque d'archives-là. Et pour pouvoir arriver à faire une œuvre qui, oui, est pour moi en relation avec, directement avec le lieu, mais pas seulement le lieu de la Pointe-aux-Lièvres, mais bien tous les parcs. Il y a plusieurs parcs qui sont des parcs à cause que c'est, c'est contaminé. Mais ça, on ne s'en rend pas compte. Donc, bon, on passe là, il y a un petit tuyau qui dépasse de la terre, puis on se dit, bon, OK, pourquoi il y a ce tuyau? Mais c'est à cause que le terrain est contaminé. Donc, c'était en relation beaucoup avec la contamination. OK. Donc, voilà.
Bien, il nous reste quelques minutes. On pourrait peut-être, avant de se laisser, parler aussi d'une autre œuvre qu'on va entendre à la toute fin d'émission, qui est celle de Pierre-Olivier Fréchette-Martin.
Oui, oui.
Alors, Mélanie, dis-nous donc quelques mots sur ce travail-là.
Pierre-Olivier a travaillé de façon assez expérimentale. Comme je disais tout à l'heure, il a travaillé beaucoup lors de la résidence chez Recto Verso avec un vieux pick-up. Et différents disques écoutés à l'envers, à l'endroit. Mais finalement, ce qui l'a le plus intéressé, c'était vraiment le son de l'aiguille, tout simplement. Et c'est l'œuvre qui est la plus minimale entre dans les six. C'est assez lourd, c'est planant, c'est comme un crescendo aussi. Ça commence tranquillement, donc on a une petite boucle qui est le son de l'aiguille, qui est répété, répété, répété. Ça finit par ressembler à un crépitement qu'on peut entendre justement sur la glace, sur la patinoire. Et sur le site, ce qui est intéressant avec cette œuvre-là, dans son idée de cycle, de boucle, le son de l'aiguille qui est toujours répété faisait vraiment comme une boucle puis était amplifié de plus en plus. Et sur le site, dans le paysage, ce que ça donnait, c'est que c'est ça, on ne savait pas, en fait, si c'était le bruit des patins, le vent dans le petit piqueur. Au début, on se posait vraiment des questions, puis c'est ce qu'il recherchait, lui aussi, à faire en sorte que les gens se questionnent. C'est quoi ce crépitement-là dans l'espace?
C'était l'œuvre qui était vraiment la moins narrative, puis qui était la plus œuvre qui avait l'air le plus dans l'ambiance du site. Dans le sens qu'on ne savait pas trop si, ça, comme tu viens de dire, Mélanie, si ça nous venait des oreilles ou si c'était ce qu'on ressentait sur le territoire. Il y avait quelque chose qui était vraiment pas... Qui est très différent de ce que... Mais toi aussi, Myriam, c'était pas... Il n'y avait pas d'histoire. Mais c'était, ces œuvres-là étaient... Et, donc, moi, ce que je trouvais comme expérience, c'est qu'il y avait une diversité d'expériences quelque part qui était proposée dans ce projet-là. On n'était pas dans le même type de récit. C'était vraiment six... appelons ça des récits, là, mais des six pièces qui se démarquaient les unes des autres, mais qui avaient comme un lien qui était celui du froid, de l'hiver, de ce territoire-là, mais vu à travers des yeux différents puis des oreilles différentes. Malheureusement, oui, Fanny, tu veux rajouter un petit quelque chose?
Oui, j'ai envie de dire, on a parlé des pièces, mais ce qui était vraiment fabuleux de ce projet-là, je trouve, c'est la diffusion sur le site. C'est l'idée que c'est super low-tech, là. C'est des pièces que tu fais play sur un CD stéréo diffusé dans je ne sais pas combien de haut-parleurs sur place. Puis en fait, c'est nous qui faisions notre spatialisation en se promenant d'un haut-parleur à l'autre. S'il y avait beaucoup de nuages, moins de nuages, c'était très venteux. S'il y avait beaucoup de gens, à chaque fois, on vivait une expérience différente. Puis tout, c'est ça, la spatialisation, c'était ça que je trouvais formidable de ce projet-là. Ça marchait vraiment bien.
Les sons, ambiances mélangées avec les pièces. On ne savait pas si le chien qui aboyait était dans l'œuvre ou dans... C'était ça l'idée aussi de départ, là.
Ben, c'était un beau projet. Et c'était un beau projet. Malheureusement, il n'a pas eu la fin qu'on aurait souhaité. Avant de se quitter, rappelons aussi qu'il y a eu un partenaire important dans ce projet-là qui était Avatar. Oui. Donc, soulignons le travail d'Avatar dans ce projet-là. Et on va se laisser sur donc, cette pièce de Pierre-Olivier Fréchette-Martin en vous soulignant, chers auditeurs et auditrices, que la semaine prochaine, lors de la prochaine émission, donc, nous reviendrons sur ce projet-là, mais partir de ce projet-là comme étant un moyen de une lorgnette sur comment on peut faire autrement ou comment on pourrait faire différemment ou qu'est-ce qui a fait qu'on aurait peut-être pu garder ce projet-là en vie longtemps. Merci beaucoup. Merci Fanny.
Merci
Mélanie.
Merci beaucoup.
Merci Myriam.
Merci Jean-Pierre.
On se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique.